Bienvenue à tous pour notre deep dive d'aujourd'hui. On va se plonger dans un sujet fascinant et controversé.
Ah oui.
Le mur de Berlin, symbole indélébile de la guerre froide.
Absolument.
On va explorer ensemble les motivations derrière sa construction en replaçant cet événement dans le contexte plus large de la guerre froide et de l'histoire de la RDA de sa naissance en 1949, jusqu'à ce jour fatidique de 1961.
D'accord.
On va voir comment West a réagi à cet acte audacieux. On va examiner de près la structure imposante du mur et la frontière interallemande. Et puis surtout, on va s'interroger ensemble. Est-ce que le mur a finalement servi ou desservi le régime de la CSDP?
C'est une question claire.
Accrochez-vous, on va décortiquer tout ça ensemble.
Ah, le mur de Berlin est plus qu'une simple barrière de béton, une cicatrice sur le visage de l'Europe, un symbole puissant qui cristallise les tensions et les contradictions de la guerre froide.
Exactement, pour bien comprendre l'émergence de ce rideau de fer, il faut remonter le fil de l'histoire. L'Allemagne vaincue et divisée après la Seconde Guerre mondiale devient l'épicentre d'un bras de fer idéologique entre l'Est et l'Ouest. Berlin, située en plein cœur de la zone soviétique, se retrouve elle aussi coupée en deux, reflétant la fracture de l'Europe.
Et c'est dans ce contexte de tension croissante que se produit un phénomène crucial, le vote avec les pieds, comme on l'appelait à l'époque. Imaginez des milliers d'Allemands de l'Est fuyant la misère économique et la répression politique choisissent de passer à l'Ouest, principalement via Berlin.
Une véritable hémorragie pour la RDA. On parle de près de 3,5 millions de personnes entre 1945. Et la construction du mur, au-delà des chiffres, c'est une perte immense de capital humain, de talent de main-d'œuvre. Qualifier le régime, et l'Allemagne se retrouve face à une crise existentielle.
Absolument. Imaginez l'impact sur une nation naissante, médecins, ingénieurs, intellectuels. Tous ceux qui aspiraient à une vie meilleure, plus libre, choisissaient de partir pour le régime de la CD. C'était un camouflet, un désaveu cinglant.
Alors, comment endiguer ce flot incessant de départ? La construction du mur le 13 août 1961 apparaît comme une solution radicale, brutale, mais d'une efficacité redoutable.
La décision prise dans le plus grand secret par les dirigeants de la RDA et de l'Union soviétique prend le monde entier par surprise du jour au lendemain. Berlin est coupé en deux par des barbelés, des barricades, des soldats armés. Imaginez le choc, la stupeur, le désespoir des familles séparées des amis qui se retrouvent de part et d'autre d'une frontière infranchissable.
C'est un tournant majeur dans l'histoire de la guerre froide. Le mur de Berlin devient instantanément un symbole de la division du monde, de l'oppression de la mainmise soviétique sur l'Europe de l'Est.
Et ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle ce mur s'érige, évoluant d'un simple cordon de barbelés à un système de fortifications complexe et mortel. On parle de différentes générations du mur, avec des matériaux de plus en plus sophistiqués, de la Grenzmauer 75 en béton armé au mirador, au fossé anti-véhicule, au système d'alarme ultra-sensible.
Il ne faut pas oublier la tristement célèbre bande de la mort. Cet espace vide entre les deux murs, patrouillé par des gardes armés et leurs chiens, un no man's land, où toute tentative de passage était synonyme de danger mortel.
C'est là que le mur prend une dimension terrifiante, une incarnation concrète de la répression. Ce n'est plus seulement une frontière, c'est une machine à broyer les espoirs, un symbole de l'enfermement.
Et de l'autre côté du rideau, de faire comment l'Ouest réagit-il à ce coup de force? Est-ce que le monde libre se contente de regarder passivement la construction de cette prison à ciel ouvert?
La réaction de l'Ouest est un mélange complexe d'indignation, de condamnation, mais aussi de prudence.
Oui, c'est vrai.
Imaginez le dilemme, d'un côté l'impératif moral de dénoncer cette violation flagrante des droits de l'homme de l'autre, le risque d'une escalade militaire avec l'Union soviétique.
C'est une situation géopolitique extrêmement tendue, où chaque geste, chaque parole peut avoir des conséquences dramatiques.
Absolument. Willy Brandt, alors maire de Berlin-Ouest, incarne cette volonté de résistance face à l'oppression, son discours. La liberté est indivisible, et si elle est bafouée en un lieu, elle est menacée partout, résonne encore aujourd'hui comme un appel à la solidarité et à la défense des valeurs démocratiques.
Et les alliés, que font-ils concrètement pour soutenir Berlin-Ouest et contrer la menace soviétique?
Le président Kennedy, malgré sa prudence initiale, prend des mesures fortes. Il renforce la présence militaire américaine à Berlin-Ouest, affirmant la détermination des États-Unis à défendre la liberté de la ville. Et puis, il y a ce moment iconique, le discours de Kennedy devant le râteau Schwarzenberg, où il prononce ces mots qui resteront gravés dans l'histoire.
Ich bin ein Berliner.
C'est un moment fort en symbole, le leader du monde libre s'identifiant aux Berlinois de l'Ouest, leur apportant un soutien moral inestimable face à l'adversité. Mais au-delà des discours, il y a aussi des moments de tension extrême, comme le face-à-face des chars américains et soviétiques. Au checkpoint, Charlie, on a frôlé le pire, n'est-ce pas?
Oui, absolument. Cet incident, en octobre 1961, illustre la fragilité de la paix, le danger permanent d'un embrasement généralisé. Heureusement, la diplomatie a prouvé le, mais l'épisode du Checkpoint Charlie restera comme un rappel glaçant de la menace nucléaire qui planait sur le monde.
Et pendant ce temps, de l'autre côté du mur, la vie quotidienne des Berlinois de l'Est bascule dans un régime de surveillance et de contrôle total.
La Stasi, la police politique est-allemande, étend ses tentacules sur toute la société. On estime qu'un citoyen sur six était un informateur, prêt à dénoncer ses voisins, ses amis, mais sa propre famille. Imaginez l'atmosphère de suspicion, de paranoïa qui régnait à l'Est.
C'est terrifiant, le mur, ce n'est pas seulement une barrière physique. C'est un système de contrôle social-psychologique qui s'immisce dans tous les aspects de la vie privée.
Exactement, la Stasi interceptait le courrier, écoutait les conversations téléphoniques, infiltrait les milieux intellectuels, artistiques, religieux. L'objectif était de contrôler les esprits, d'étouffer toute forme de dissidence.
Et face à cette oppression, certains choisissent la résistance. Les Inuits, on imagine, des tentatives désespérées de franchir le mur au péril de sa vie.
Absolument, il y a eu des centaines de tentatives d'évasion, certaines spectaculaires, d'autres tragiques, des tunnels creusés sous le mur des passages, en engolfière, des voitures modifiées pour foncer à travers les barrages. Chaque tentative était un acte de courage, de défiance face à un régime totalitaire.
Et malheureusement, beaucoup de ces tentatives se sont soldées par des échecs, des arrestations, des drames. Le cas de Peter Foechter, abattu par les gardes frontières, est allemand en 1962. Alors qu'il tentait de franchir le mur, restera gravé dans les mémoires comme un symbole de la brutalité du régime.
La mort de Peter Foechter, agonisant pendant près d'une heure sous les yeux des gardes et des observateurs occidentaux impuissants, a provoqué une vague d'indignation internationale. Mais le régime est allemand et resté inflexible. Le mur était là pour rester un rempart contre ce qu'ils appelaient l'agression capitaliste.
C'est une rhétorique cynique qui masque mal la réalité. Le mur était avant tout une mesure désespérée pour endiguer l'hémorragie de la population, pour maintenir le régime à flot. Mais à quel prix le mur n'a-t-il pas finalement été un handicap pour la RDA, en l'isolant du monde, en asphyxiant son économie, en nourrissant le ressentiment et la frustration de sa population?
C'est la question fondamentale que l'on va explorer ensemble dans la dernière partie de notre deep dive, le mur de Berlin, symbole de la division de l'oppression. Est-il finalement devenu le fossoyeur du régime qu'il était censé protéger?
Alors le mur conçu pour solidifier le régime est allemand, a-t-il paradoxalement contribué à sa chute?
C'est un débat complexe, aux multiples facettes à court terme. On ne peut nier que le mur a offert un répit au régime de la SED. Il a stoppé l'exode massif, endigué la fuite des cerveaux et donné l'illusion d'une stabilité retrouvée.
Un peu comme un pincement sur une plaie béante. En quelque sorte, ça masque le problème sans le résoudre vraiment. Exactement. Le mur a permis à la RDA de survivre. Mais à quel prix, en s'enfermant derrière ce rideau de béton, le régime s'est coupé du monde, s'est sclérosé, a étouffé toute forme de liberté et de créativité.
Et pendant ce temps, le monde change l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir en URSS en 1985, avec ses politiques de perestroïka et de glanost insuffle un vent de liberté sur l'Europe de l'Est, les peuples aspirent au changement, à la démocratie.
Et la RDA ne peut rester éternellement à l'abri de ce vent de changement. Les manifestations se multiplient, la contestation grandit, le régime vacille, le mur symbole honni de l'oppression devient la cible de toutes les colères.
Et puis il y a ce moment incroyable, presque surréaliste, le 9 novembre 1989. Le mur s'ouvre. Comment expliquer ce retournement de situation?
C'est une conjonction de facteurs, un enchaînement d'événements improbables. Il y a la pression populaire de plus en plus forte, les réformes timides et hésitantes du régime est allemand, et puis cette fameuse conférence de presse de Günther Schabowski, membre du Politburo.
Ah oui, la conférence de presse où il annonce un peu, malgré lui, l'ouverture immédiate de la frontière, un cafouillage historique qui aura des conséquences inimaginables.
Imaginez la scène, les journalistes stupéfaits, les gardes frontières pris au dépourvu, et des milliers de Berlinois de l'Est qui se ruent vers les points de passage, réclamant le droit de passer à l'Ouest, le mur, symbole invincible de la division, s'effondre sous la pression populaire.
Des images inoubliables, les retrouvailles émouvantes, la foule en liesse sur le mur, les coups de pioche qui font tomber les blocs de béton, symbole d'une ère révolue, la chute du mur de Berlin. C'est la fin de la guerre froide, le triomphe de la liberté sur l'oppression.
C'est une victoire de l'espoir, de la persévérance. Un rappel puissant que les murs, aussi imposants soient-ils, ne peuvent résister éternellement à la force du désir de liberté.
Et pour le régime de la SED, c'est la fin de la partie. Le mur, censé le protéger, l'a finalement emporté dans sa chute, une ironie de l'histoire.
Le mur de Berlin nous rappelle que l'histoire est en perpétuel mouvement, que les régimes autoritaires aussi puissants soient-ils, sont condamnés à disparaître face à la volonté des peuples.
C'est une leçon précieuse à méditer, une source d'inspiration pour tous ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie à travers le monde. Merci de nous avoir suivis dans cette deep dive au cœur de l'histoire du mur de Berlin. On espère que cette exploration vous a permis de mieux comprendre cet événement complexe et ses multiples ramifications.
N'hésitez pas à approfondir le sujet, à lire des témoignages, à visionner des documentaires, à visiter les lieux de mémoire. L'histoire du mur de Berlin, c'est l'histoire de l'humanité avec ses moments de ténèbres et ses élans d'espoir.
À bientôt pour un nouveau deep dive.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.